fait trop de bien. Ça dégourdit les jambes. Allez-y, les
j'adore ça. Moi, je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous, bordel. Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Les t-shirts, sortez. Sortez.
Oui, alors oui.
Franchement, c'est trop chouette.
Oui, c'est
la culture. Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez,
c'est
cool. Sortez les jambes.
Ok, vous voulez sortir?
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sorti tous avec nous.
Sors !
Il est 16h sur Radio Campus Tours 99.5 et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis Lola, nouvelle voix de Sortez. Et avec moi, dans ce studio, Elio et Mélissa.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Matteron, responsable pédagogique des rendez-vous de l'histoire. Bonjour à vous.
Bonjour Lola.
C'est donc du 8 au 12 octobre 2025 que se tiendra la 28e édition des rendez-vous de l'histoire à Blois. Pour commencer, quelques questions pour présenter l'événement à nos auditeurs.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, ce qui vous amène, votre parcours et votre rôle exact dans le festival ?
Alors moi, je suis au Festival des rendez-vous de l'histoire, le chargé de mission éducation nationale. Donc mon rôle, c'est de veiller à ce que le festival assure la mission de formation des enseignants, puisqu'il existe un partenariat très ancien entre les rendez-vous de l'histoire et le ministère de l'Éducation nationale. Et les rendez-vous de l'histoire sont, entre autres choses, le grand rendez-vous des professeurs d'histoire pour notre pays.
Très bien. Et est-ce que, qu'est-ce que les rendez-vous de l'histoire ?
Alors, le rendez-vous de l'histoire, c'est le grand festival de tous les passionnés d'histoire en France. C'est un festival qui est créé en 1998 sur une idée de Jack Lang, qui est alors maire de Blois, et qui va réunir les historiens et les passionnés d'histoire autour d'un très vaste et très intéressant programme de conférences, et puis aussi de projections de films et d'un grand salon du livre d'histoire dans lequel il y a toute l'actualité éditoriale de la discipline.
Alors ce festival se trouve dans la ville de Blois, qui est au cœur de plusieurs moments charnières dans l'histoire, cette ville. Est-ce que la mémoire historique locale, elle est mise en avant lors du festival ?
Alors oui, tout à fait. On organise par exemple pour l'édition qui vient des visites de la ville de Blois avec nos amis du label Blois Ville d'Art et d'Histoire. Donc il est possible de participer à des visites guidées de la ville. Il y a également, là je parle un petit peu pour ma partie qui est la pédagogie, des ateliers qui sont organisés dans le château de Blois pour les élèves, où on va découvrir l'histoire de France à travers l'histoire du château de Blois qui, à différentes époques, que ce soit le Moyen-Âge, l'époque moderne et même l'époque contemporaine avec la Seconde Guerre mondiale, évidemment, a été bouleversée par les grands moments de l'histoire.
Et pour finir sur la présentation globale du festival, est-ce que vous pouvez nous dire à quel public s'adresse cet événement et à quel tarif ?
Alors, le Festival des rendez-vous de l'histoire, c'est une manifestation qui est gratuite. Toutes nos conférences sont gratuites. Le Salon du Livre est gratuit. La plus grande partie des séances de cinéma que nous proposons sont gratuites. Donc, c'est vraiment un festival qui s'adresse à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. On a une programmation pour les plus jeunes. On a une programmation pour les étudiants. On a une programmation pour les professeurs d'histoire. On a une programmation pour les cinéphiles. Donc voilà, c'est le grand rendez-vous de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire.
Très bien, merci.
Vous dites que le festival est gratuit. Pourquoi tenez-vous à cet engagement ?
Parce que le Festival des rendez-vous de l'histoire, il a été conçu comme une grande université populaire. Donc l'idée, c'est de mettre la connaissance universitaire à la portée de tout le monde. Et la gratuité, c'est évidemment le moyen de sélectionner personne et de faire venir tout le monde.
Le thème de cette année est la France, avec un point d'interrogation. Donc le point d'interrogation a toute son importance. Qui choisit le thème ? Est-ce que vous voudriez en dire plus ?
Bien sûr. Alors le thème, il est choisi par le Conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire. Donc ce Conseil scientifique, il réunit des historiens, il réunit aussi un certain nombre d'associations et de médias qui ont un lien avec l'histoire. Je pense par exemple à la revue L'Histoire, je pense à l'Association des professeurs d'histoire-géographie, je pense à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Voilà, des représentants de ces institutions-là et des historiens discutent ensemble du thème. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la France? Eh bien, parce que pourquoi pas? Pourquoi ne pas parler de notre pays? La France, c'est un objet d'histoire. Et ce point d'interrogation qui a été mis à la fin du thème par un des membres du conseil scientifique qui s'appelle Pascal Horry, qui est un grand historien, spécialiste d'histoire culturelle, membre de l'Académie française, eh bien, ce point d'interrogation, il est là pour justement mettre la France en question. Il s'agit de s'interroger sur notre propre pays, sur son histoire, et voilà, de se demander comment cet objet historique qu'est la France traverse les époques.
Diriez-vous que ce choix de thème reflète plus davantage des interrogations du présent ou la volonté de mettre en lumière des périodes oubliées de l'histoire?
Oh ben, ce thème va permettre de faire les deux. Aujourd'hui, effectivement, on peut se questionner sur notre pays. C'est toujours le bon moment. Et ce questionnement, il a aussi eh bien, existé à d'autres époques. Et on va pouvoir, à travers ce thème, eh bien, se pencher aussi bien sur le Moyen-Âge que sur l'époque moderne, que sur le début de l'époque contemporaine. Et puis parler aussi de la France avant la France, de l'Empire romain et de tout ce que la France d'aujourd'hui a hérité de ces époques où la France n'existait pas encore. Donc non, toute l'histoire va pouvoir être abordée à travers ce thème.
Quels sont les temps forts de ce festival?
Alors, il y en a beaucoup. Par où commencer? Je vais les donner dans l'ordre chronologique, en bon historien que je suis. Le festival, il commence le mercredi 5 octobre par l'ouverture du cycle « L'économie au rendez-vous de l'histoire ». J'en ai pas encore parlé, mais les rendez-vous de l'histoire ne parlent pas exclusivement d'histoire. On a aussi un cycle « L'économie au rendez-vous de l'histoire ». Ce temps fort de l'ouverture de l'économie au rendez-vous de l'histoire, ce sera une table ronde qui va réunir des économistes autour d'un modérateur que vous connaissez peut-être, qui est Dominique Seux, qu'on entend sur France Inter souvent le matin, journaliste spécialiste de l'économie. Et ils vont se questionner sur pourquoi choisir la France. Voilà, pourquoi choisir la France? Ce sera le premier moment de ce festival. Après, on a l'ouverture du cycle cinéma, qui aura lieu le jeudi soir, l'ouverture du cycle cinéma autour d'un film de Dominique Moll, que vous connaissez peut-être parce qu'il a réalisé La nuit du 12, il a réalisé Harry, un ami qui vous veut du bien. Et Dominique Moll, il présentera son dernier film qui s'appelle Dossier 137, qui est l'histoire d'une enquête de l'IGPN, de la police des polices, sur une bavure policière qui a eu lieu pendant la crise des Gilets jaunes. Un film très, très intéressant et très engagé aussi.
Très bien. Comment sélectionnez-vous les conférences, les conférenciers, les invités, sur quels critères?
Alors, on essaie d'inviter des gens qui sont des spécialistes, voilà, des questions qui sont abordées. Les conférences, elles sont choisies par un conseil scientifique qui va voilà, faire une sélection d'abord sur la base de la solidité scientifique des propositions. Et puis, on a aussi des propositions qui nous viennent d'institutions culturelles. Je pense par exemple au ministère des Armées qui a beaucoup d'archives, beaucoup de matériel historique qu'il présente au rendez-vous de l'histoire. Je pense au ministère de la Culture, les Archives de France, le Centre National du Livre, voilà, toutes ces grandes institutions culturelles, elles ont aussi des sujets à porter et qui ont rapport avec l'histoire et qu'elles viennent présenter au rendez-vous de l'histoire. Voilà. Dans le cadre, par exemple, de la pédagogie, pour la partie dont je m'occupe, on sélectionne des rencontres qui ont un intérêt pour la formation des enseignants, qui vont les aider à enseigner les matières des programmes d'enseignement. Voilà. On essaie de faire des choses qui soient les plus pertinentes, les plus sérieuses aussi possible d'un point de vue scientifique.
Est-ce qu'il y aura des nouveautés cette année ?
Alors oui, parmi les nouveautés, je vais en mentionner une, c'est l'enregistrement de podcasts d'histoire qui auront lieu en direct au festival. On va demander à des podcasteurs comme par exemple Fanny Cohen-Moreau qui anime un podcast que je vous conseille vivement, ça s'appelle Passion médiéviste. Elle viendra enregistrer un podcast en direct pendant le festival. Il y a un autre podcast d'un... d'un professeur d'histoire qui s'appelle Luc Desraux, qui fait un podcast qui s'appelle Chemin d'histoire. Il interviewera un grand historien qui s'appelle Carlo Ginzburg. Voilà, cet enregistrement de podcast, il aura lieu au festival à la Cité du Numérique.
Très bien. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez, vous aviez été également enseignant à Blois. Est-ce qu'il y aura des enseignants sur le festival de Blois?
Absolument. Il y a plusieurs milliers de professeurs d'histoire qui font le déplacement. Bien sûr, beaucoup de l'Académie Orléans-Tours, dans laquelle se trouve Blois, des professeurs d'Orléans, de Tours, de partout, de Châteauroux, de Chartres. Et puis, on reçoit aussi, et ça, c'est important de le savoir, des professeurs qui viennent de toutes les académies de France et d'outre-mer. On aura des profs qui viendront se former de l'île de la Réunion, de la Guadeloupe. Parce que les rendez-vous d'histoire sont vraiment un des grands temps forts de la formation professionnelle pour notre discipline. Donc oui, on va recevoir des milliers de profs d'histoire qui viennent se former à Blois.
Très bien, merci à vous pour cette présentation. On va pouvoir y revenir plus en profondeur par la suite. On va faire une pause musicale sur 99.5 FM, Radio Campus Tours. On écoute tout de suite Paris dans mon sac de Noura.
Fait envie, je voudrais mettre Paris dans mon sac. Vous me faites envie, je voudrais mettre Paris dans mon sac. Paris, tu proposes, tu exposes trop de choses. Jolie bagatelle, étincelle qui m'appelle. Je ne sais laquelle est la plus belle. Vous me faites envie, je voudrais mettre Paris dans mon sac. Vous me faites envie, je voudrais mettre Paris dans mon sac. On m'en fait reproche, mais quand elle m'accroche, faut-il que j'approche les yeux dans mes poches? Jolie bagatelle, étincelle qui m'appelle. Je ne sais laquelle est la plus belle. Tout est si joli, je voudrais mettre Paris dans mon sac. Tout est si joli, je voudrais mettre Paris dans mon sac. Oui, je perds la tête, j'achète et j'achète. Je n'aurai plus le sou pour revenir chez nous. Jolie bagatelle, étincelle, m'ensorcelle. Je ne sais laquelle est la plus belle. Et puisque celui pour qui j'ai mis tout Paris dans mon sac. Et puisque celui pour qui j'ai mis tout Paris dans mon sac. C'est qu'à ma manière, j'exagère pour lui plaire. Jolie bagatelle qui m'appelle, m'ensorcelle. Faites-moi plus belle, bien plus belle. La 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 la.
Et vous venez d'écouter Paris dans mon sac de Noura sur Radio Campus Tours. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h dans l'émission Sortez. Nous parlons aujourd'hui des rendez-vous de l'histoire avec notre invité Pierre Matteron, responsable pédagogique des rendez-vous de l'histoire, qui se tiendront, je le répète, du 8 au 12 octobre. J'aurais une question juste avant de reprendre, en lien avec la musique qu'on vient d'entendre. Donc Noura, c'est une chanteuse algérienne. Et j'ai vu sur le site des rendez-vous de l'histoire plusieurs actions pédagogiques mises en place liées à la guerre d'Algérie et à la décolonisation. Pourquoi est-ce que cette thématique était importante pour vous à mettre en avant ?
Oh, bah parce que voilà, la France, c'est une ancienne puissance coloniale, c'est un pays d'immigration. Donc s'interroger sur la France, c'est évidemment s'interroger sur toutes les populations qui ont été en contact volontairement ou involontairement avec elle. C'est s'interroger aussi sur la population française et ses différentes composantes. Donc bien sûr, parler de l'immigration, c'est très important. On aura d'ailleurs une exposition, enfin elle est déjà ouverte, elle est déjà visible au Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire, une exposition qui s'appelle Portrait de France et qui est une galerie de portraits dans laquelle on présente des Français issus de l'étranger ou de l'outre-mer qui ont joué un rôle important dans l'histoire de France. C'est une exposition dont le commissaire est Pascal Blanchard, que vous avez peut-être entendu intervenir sur ces sujets-là dans l'émission 28 minutes sur Arte par exemple.
Très bien, merci beaucoup. On va parler maintenant un peu plus de vos projets pédagogiques que vous coordonnez à travers le festival. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de l'initiative Game Jam et nous dire qui vous accompagne au niveau professionnel sur cet événement ?
Alors oui, la Game Jam, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que j'adore les jeux vidéo. Voilà, je suis un prof qui joue aux jeux vidéo. Et la Game Jam, en fait, c'est une compétition de création de jeux vidéo qui met en présence 8 équipes constituées d'un professeur d'histoire-géographie et de 7 ou 8 informaticiens. Alors, parmi les informaticiens, il y a des game designers, des game artists, des programmeurs, des sound designers. Et ces 8 équipes, elles ont 48 heures pour créer un jeu vidéo pédagogique sur un sujet en lien avec les programmes d'histoire de collège et de lycée. Et donc, cette compétition, elle a déjà eu lieu. Elle a eu lieu le week-end dernier. Les jeux existent, ils sont gratuits, ils sont en ligne, tout le monde peut y jouer et voter pour choisir le meilleur. Et ces jeux, on les présente au rendez-vous de l'histoire dans l'Agora numérique, qui est un espace qui se trouve au rez-de-chaussée de la bibliothèque Abbé Grégoire à Blois. Et dans cette Agora numérique, vous pouvez venir rencontrer les personnes qui ont participé à la Game Jam. Elles vous présentent leurs jeux, vous pouvez le tester. Vous pouvez découvrir aussi des métiers du jeu vidéo. Et puis, assister ensuite à la remise du prix de la meilleure, du meilleur jeu vidéo de la Game Jam, des rendez-vous de l'histoire.
En restant sur le thème des jeux vidéo, est-ce que vous pouvez nous parler de la Hallograin virtuelle, à quoi elle sert et comment elle fonctionne ?
Ouais. Alors effectivement, ce projet Game Jam, il est porté par les rendez-vous de l'histoire, mais aussi par une association lyonnaise qui s'appelle La Science Entre en Jeu. Ça répond à votre question précédente sur les partenaires qui nous accompagnent. L'association La Science Entre en Jeu, qui est spécialisée dans la réalisation de Game Jam. Et puis une graphiste, Solène Marty, qui a réalisé dans un style pixel art, donc vous voyez, vieux jeu vidéo, qui a réalisé une Hallograin. Alors la Hallograin à Blois, c'est un lieu qui est emblématique, c'est l'endroit où se déroulent les grands événements blésois, et donc elle a été reconstituée dans un style pixel art, et les jammers, les participants de la Game Jam, se retrouvent dans cet hallograin sous la forme d'un petit avatar, et en fait, quand deux avatars se rapprochent, ça déclenche une visioconférence, et ils peuvent se parler et travailler ensemble sur les jeux vidéo. Voilà.
Ok. Est-ce que vous présentez également des conférences et des tables rondes sur les sciences humaines et plus particulièrement sur l'histoire ? Ma question, elle est-ce qu'au fil des années, vous voyez ou est-ce que les enseignants voient que ces nouveaux moyens ont un réel impact sur l'apprentissage des élèves en histoire ou dans les sciences humaines en général, ou sur l'envie d'apprendre l'histoire ?
Oui, bien sûr, sur l'envie d'apprendre l'histoire, indiscutablement, parce qu'il y a énormément de jeux vidéo qui vous plongent dans une époque. Je pense par exemple à cette série de jeux vidéo que tout le monde connaît, qui s'appelle Assassin's Creed. Ce sont des jeux dans lesquels vous êtes plongé dans une ville à une époque donnée. Alors Assassin's Creed Unity, c'était Paris au moment de la Révolution. Assassin's Creed Odyssey, c'était les villes de Grèce antique à l'époque de l'Antiquité. Ces jeux, en fait, ils contribuent à créer chez les élèves un imaginaire historique. Et cet imaginaire historique, eh bien, ça peut être le point de départ ensuite d'un cursus en histoire, parce qu'on a envie d'en savoir plus. Je pense par exemple à un jeu comme Age of Empires, dont vous connaissez peut-être les différents volets. Typiquement un jeu auquel j'ai joué quand j'étais enfant et qui a construit chez moi un imaginaire historique, et auquel je joue toujours aujourd'hui avec mon fils, et qui entretient la passion pour l'histoire, je pense.
Et j'ai vu aussi que certains événements étaient retranscrits sur la plateforme Twitch, sur la chaîne Histoire en Jeu. Est-ce que ça, c'est une initiative de votre part ? Et est-ce que des classes absentes au festival peuvent profiter de cette retranscription pour vous suivre à distance ?
Alors, la retransmission sur Twitch, c'était pendant le temps de la Game Jam. C'était pour permettre aux gens de suivre, en fait, le travail des équipes. Et en même temps que les équipes d'informaticiens et d'historiens travaillaient, on avait des historiens qui intervenaient et qui parlaient d'un sujet en lien avec un jeu vidéo. Cette retransmission, on ne pourra pas la faire pendant le festival. On n'a pas encore, le savoir-faire pour avoir une retransmission en direct sur Twitch. On aura par contre des événements qui sont retransmis en direct sur YouTube, qui peuvent être suivis. Voilà, il y a des lives. Je pense un exemple par parmi d'autres, le samedi soir, on a un grand événement qui s'appelle le Marathon des images, dans lequel on demande à 24 historiens et historiennes de parler pendant 5 minutes d'un document iconographique, d'une image qu'ils ont choisie. C'est très rythmé, c'est très intéressant, parce qu'ils ont 5 minutes, et c'est très contraint, on les coupe pratiquement au bout de 5 minutes. Et donc, voilà, en 5 minutes, ils vont vous présenter un document historique et vous expliquer pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant. Cet événement-là, il est retransmis en direct sur YouTube, il peut être suivi de n'importe où.
Ok.
Aujourd'hui, les jeunes générations se tournent vers le numérique, les réseaux sociaux, les podcasts, les jeux vidéo, comme on vient de le voir. Comment le festival peut-il rester un rendez-vous incontournable ?
Alors, nous aussi, on se tourne vers le numérique. Voilà, avec les, je vous ai donné quelques exemples de cette programmation numérique qui est la nôtre. En fait, on a aussi des personnalités qui viennent de ce monde de l'Internet, qui viennent au festival et donc qui, parce qu'elles sont là, vont intéresser un public de jeunes. Je prends un exemple, Tourangeau, que vous connaissez sûrement, c'est Nota Bene. Benjamin Brio, c'est un youtubeur, un vulgarisateur de la science historique. Il a cette chaîne Nota Bene qui fonctionne extrêmement bien. Ce qu'il fait, c'est absolument formidable. Il est hyper intéressant à écouter. Il aborde énormément de sujets. Il sera présent cette année au festival pendant les 3 jours. Il aura son stand. Donc, ça peut être l'occasion de le rencontrer. Il nous fait aussi l'amitié, la gentillesse d'intervenir dans un établissement scolaire. Donc, il va aller aussi parler à des élèves et expliquer son activité de youtubeur. Qui intéresse les jeunes, ça fait partie de ces nouveaux métiers de l'Internet, évidemment, enfin, dont il faut parler. Donc voilà un moyen pour nous de continuer à exister dans le paysage numérique et d'attirer un public jeune.
Le festival réunit historiens, écrivains, artistes. Qu'est-ce que cette confrontation de points de vue apporte au festival ?
Je pense que c'est un enrichissement énorme parce que, évidemment, si on laissait les historiens parler entre eux d'histoire, on pourrait parfois avoir des discussions de spécialistes un peu pointues, associer des personnalités qui viennent du monde de la littérature, qui viennent des sciences dures, qui viennent de l'économie ou qui viennent d'autres domaines. On a par exemple des juristes qui viennent parler avec les historiens. Ça permet de faire le lien entre le présent et le passé. Parce que l'histoire, pour elle-même, c'est évidemment très intéressant, mais je pense qu'il faut constamment revenir à l'époque où on est. L'histoire, elle a pour mission de nous éclairer aussi aujourd'hui et d'inspirer les citoyens que nous sommes et puis aussi l'action politique. Donc, faire venir des gens, des acteurs aussi de la vie publique, c'est évidemment très important. Ils nous parlent de leur relation à l'histoire, parce que la France est un pays qui a une passion pour l'histoire. On ne retrouve pas cette même engouement autour de l'histoire dans tous les pays du monde, loin de là. Tout le monde, enfin, énormément de gens, ont un lien particulier à l'histoire. Ils ont une époque préférée, ils ont un prof d'histoire qui les a marqués, évidemment. Et ils viennent nous parler de leur relation à l'histoire au festival, et c'est passionnant.
Est-ce que, selon vous, justement, une œuvre littéraire ou artistique peut éclairer l'histoire aussi puissamment qu'une recherche académique ?
Absolument, c'est certain. On parlait des jeux vidéo qui entretiennent un imaginaire historique, mais la littérature a joué ce rôle-là et continue à le jouer de manière extrêmement puissante. Il y a énormément de romans historiques qui sont écrits chaque année. D'ailleurs, au rendez-vous d'histoire, on remet un prix du roman historique. On remet aussi un prix du roman historique jeunesse qui est remis par des élèves. Donc, bien sûr, la littérature est un puissant levier d'intérêt pour l'histoire. Je prends un exemple, c'est l'écrivain Emmanuel Carrère, qui est bien connu hein, pour son œuvre. Il a écrit Yoga et bien d'autres romans, Le Royaume, etc. Il viendra présenter son dernier livre au rendez-vous de l'histoire. On est extrêmement content de l'avoir. Son dernier livre s'appelle Kolkhoz. Il retrace l'histoire de sa famille. Et cette histoire familiale, elle est liée évidemment à l'histoire mondiale, à l'histoire européenne et à l'histoire avec un grand H. Donc il a une relation à l'histoire qui est extrêmement intéressante et extrêmement forte.
On en sait déjà plus sur les rendez-vous de l'histoire. Faisons une nouvelle pause musicale. Je vous amène vers une chanson qui retrace le portrait émouvant d'une fillette victime de la Shoah. On écoute « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman.
Sa mère et la famille au pied. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, 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 comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens n'avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi ici.
C'était « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman sur Radio Campus Tour 99,5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez et nous sommes avec Pierre Matteau. Alors, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur le morceau qu'on vient d'entendre dans le cadre des rendez-vous de l'histoire. On a vu que vous diffusiez dans des établissements, scolaires un épisode de la série « Écho de la Shoah » réalisé par Jimmy Leopold. Est-ce que vous pensez que le support vidéo et les images d'archives aident les élèves à mieux comprendre l'histoire ?
Oui, oui, bien sûr, indiscutablement, cette série, donc Écho de la Shoah, ce sont trois petits épisodes de 7 minutes qui sont accessibles sur Internet, qui sont produits par France Télévisions, Lumni et l'INA. Et effectivement, c'est parfait pour comprendre surtout la question de la transmission de la mémoire de la Shoah, puisque on est en train de vivre la disparition des derniers témoins de cette période-là, hein. Et la question de comment est-ce qu'on va transmettre aux générations à venir, l'énormité de ce qui s'est passé à cette période-là, c'est vraiment une question qu'on doit se poser. La vidéo joue un rôle, la bande dessinée aussi, puisque ces vidéos, en fait, elles s'appuient sur une bande dessinée au départ. Et voilà, on va organiser trois rencontres dans des établissements scolaires autour de cette série Écho de la Shoah. Voilà, donc on va essayer de sensibiliser un maximum de gens.
Très bien.
C'est la 28e édition du festival. Avez-vous des fidèles qui viennent à toutes les éditions?
Oui, bien sûr, oui, on a, et on les remercie, des fidèles qui viennent au Rendez-vous de l'Histoire depuis le début. On a un public blésois, bien sûr, qui vient parce que c'est le plus gros festival de la ville. On a aussi des gens qui viennent de toute la région. On a fait une petite enquête grâce à notre billetterie et je crois qu'il y a des gens qui viennent d'absolument tous les départements de France métropolitaine. Avec les profs qui viennent en formation, on a aussi des gens d'outre-mer. L'année dernière, on avait deux enseignants qui venaient de Wallis et Futuna se former à Blois. Donc voilà, on a aussi un public, je crois que ça représente 2% de nos festivaliers qui viennent de l'étranger, en particulier des pays francophones, des enseignants qui viennent de Suisse, qui viennent de Belgique, voilà, se former au Rendez-vous de l'Histoire, parce que c'est un événement qui est majeur pour la discipline.
Quelles émotions le festival cherche-t-il à procurer au public ?
Je pense que l'émotion que l'on cherche à procurer, c'est le plaisir de comprendre. Voilà, le plaisir de comprendre le monde, de comprendre ce qui s'est passé, le plaisir qu'il y a à savoir des choses, à apprendre des choses. C'est un plaisir qui dure toute la vie. Et je crois que c'est vraiment ça notre ambition, c'est de donner à comprendre, de donner à penser, de faire réfléchir, de piquer la curiosité, c'est toutes ces émotions intellectuelles. Il y a aussi les émotions que procure évidemment le cinéma, puisqu'on a un cycle cinéma qui est quand même très important, avec plus de 50 films qui sont diffusés. Il y a des films documentaires évidemment, des documentaires d'histoire, parfois inédits, passionnants, mais on a aussi des films de fiction. Et puisque je parle du cinéma, le président du cycle cinéma cette année, ce sera Michel Hazanavicius. Donc c'est le réalisateur de OSS 117, c'est le réalisateur de The Artist, et il a été oscarisé pour ça. Et il viendra notamment présenter un film qui s'appelle « La plus précieuse des marchandises ». Ça fait écho à la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure. C'est un film précisément sur la Shoah et sur une famille qui recueille un petit bébé, enfant juif, et qui va l'élever et lui permettre de... Enfin, je vous dis pas la fin d'ailleurs, regardez le film. Voilà, et donc il y a aussi évidemment un rapport... émotionnel à l'histoire, puisque pour beaucoup de gens, l'histoire se mêle à la mémoire familiale ou à la mémoire individuelle. Parmi les gens qui viendront, on a par exemple le général Lecointre, qui est un ancien militaire, qui lui a joué un rôle dans les événements historiques, puisqu'il était à Sarajevo, qu'il a mené avec des militaires français le dernier assaut qui a été conduit baïonnette au canon dans le cadre d'un conflit armé. Voilà, c'est quelqu'un qui a vécu les événements et qui a des choses à raconter. Donc on a une relation émotionnelle, mémorielle aux événements du passé.
Très bien. Quels ont été les plus grands défis pour cette édition 2025 ?
Alors, chaque édition est un défi parce que le festival est énorme. On organise 600 conférences. Donc ça veut dire qu'à certains moments, par exemple pendant la journée du vendredi, on a jusqu'à 20-22 conférences qui se déroulent exactement en même temps. Construire le planning pour cet événement, c'est un défi d'une grande complexité. Il faut caser les conférences dans une grille colossale. Ça se déroule dans toute la ville de Blois, donc on a à peu près une trentaine de sites qui sont sollicités. Il y a des conférences à la préfecture, au château, à la Halle au Grain, à la mairie, dans le campus de la CCI, dans les antennes universitaires. Il y a des conférences dans le conseil départemental, il y a des conférences dans les musées de la ville, il y a des conférences partout. Dès qu'on trouve un petit bout de salle, trois chaises, on fait une conférence. Donc voilà, c'est un vrai défi logistique aussi pour nous. Et on a voilà, une personne dédiée à la logistique qui relève chaque année un défi absolument extraordinaire.
Comment voyez-vous l'évolution du festival dans les prochaines années ?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Moi, j'espère évidemment que ça va durer. Je pense que la passion pour l'histoire en France, elle est entretenue, elle existe, elle continue. Et je pense que le festival va continuer d'exister. J'espère que tout ce qu'on fait autour du numérique va permettre de développer encore le festival, d'élargir notre offre de conférences, d'élargir aussi notre public, parce que le numérique, évidemment, a cet avantage qu'il ne prend pas de place. On peut proposer des contenus numériques qui sont accessibles de partout. Je pense à un festival qui va continuer d'interroger le présent à la lumière du passé, parce que on voit bien que l'histoire, elle continue de s'écrire et qu'on a toujours besoin de gens pour la penser.
Est-ce qu'il y a une conférence, un atelier que vous attendez particulièrement ?
Oui, alors moi, il y a trois conférences que j'attends particulièrement. D'abord, le vendredi matin à 10h, il y a la grande ouverture officielle du festival avec une conférence d'un historien qui s'appelle Gilles Pécou, qui se trouve être aussi le président de la Bibliothèque nationale, la BNF, et qui viendra parler de ce que la Bibliothèque de France dit de la relation qui existe entre la France et le monde, du rapport de la France au monde. Donc voilà, une conférence de trois quarts d'heure, mais qui sera sans doute passionnante, parce que quand on est étudiant, quand on est professeur, on a tous entendu parler de la Bibliothèque nationale de France, cette espèce de trésor qu'on connaît tous. Donc voilà, ça c'est un des premiers temps forts, je pense, à ne pas manquer. Une autre conférence aussi qui promet d'être passionnante, c'est celle que donnera Louise Mushikiwabo, qui est la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui viendra parler de l'avenir de la France et de la francophonie, des perspectives d'avenir, parce que au rendez-vous de l'histoire, on ne se limite pas évidemment à l'histoire, on parle aussi d'avenir. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous, c'est-à-dire aujourd'hui, quel avenir pour tous ces pays francophones, pour tout ce monde francophone, et qu'est-ce que la France va jouer comme rôle dans cette univers francophone. Et puis il y a une troisième conférence aussi qui sera évidemment passionnante, c'est le grand entretien que donnera Yasmine Belkaïd. Yasmine Belkaïd, c'est la présidente de l'Institut Pasteur. C'est une grande scientifique, vraiment quelqu'un absolument, absolument remarquable. Et elle viendra parler de la recherche française. La France, dans le passé, a été un pays à la pointe scientifiquement. Pasteur est une illustration de cette recherche française. Qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'en sera-t-il demain ? Yasmine Belkaïd, je pense, a des choses extrêmement intéressantes à nous apprendre sur le sujet.
Bon, puisque les regards se tournent vers moi, j'allume mon micro. Merci en tout cas déjà à vous deux, Lola et Elio, pour toutes ces questions à notre invité. Alors, si vous me le permettez, j'aimerais vous poser aussi quelques questions. Je réagis à toutes les informations que vous avez pu nous donner déjà sur ce festival, sur les rendez-vous de l'histoire. Alors, j'aimerais savoir si, à votre avis, on peut dire que les rendez-vous de l'histoire, c'est un festival qui est apartisan mais politique.
Alors, ce n'est pas un festival partisan.
Oui, je dis bien apartisan.
Voilà, oui, d'accord, ok. Non, c'est pas un festival partisan, effectivement. Est-ce que c'est un festival politique ? On va évidemment aborder des sujets politiques, parler de la France. La France est une entité politique. On va parler, évidemment, par exemple, Pascal Horry donnera une conférence sur la notion de nation. Donc, cette idée de nation, c'est une idée politique. On peut évidemment parler de politique sans faire de la politique. Et je pense qu'au rendez-vous de l'histoire, on le fait très bien parce qu'on invite justement des spécialistes, des chercheurs qui travaillent en suivant une méthode et qui viennent parler de sujets qu'ils ont abordés d'une façon scientifique. Donc, bien sûr, c'est un festival politique par les thèmes qu'il aborde. Maintenant, ça n'est pas un festival militant dans un sens ou dans un autre.
Oui, peut-être que ce n'est pas inutile de le rappeler aux auditeurs, hein, sait-on jamais. Et alors, j'avais une question aussi, puisque vous dites que ce n'est pas un événement militant, c'est un événement scientifique. Hein, on parle de recherche scientifique. Est-ce que pour autant, ça arrive qu'il y ait des historiens pas d'accord ?
Oui, bien sûr, c'est très intéressant d'ailleurs quand ça se produit. Ça arrive parce que il y a en histoire de grands débats, comme d'ailleurs dans toutes les sciences, et il y a des historiens qui sur un même sujet ont des approches différentes, des réflexions différentes et qui s'opposent. On aura par exemple deux historiens qui viendront parler de l'histoire de France et de la manière dont on fait l'histoire de France. L'un, c'est Patrick Boucheron, un historien bien connu qui a écrit une histoire mondiale de la France. Et un autre, c'est Éric Anceau, qui est aussi un historien de la France. Ils viendront débattre. On sait que ce sont des gens qui ont des points de vue différents. Et c'est bien pour ça qu'on les met ensemble autour d'une table pour écouter leurs arguments et pour pouvoir s'enrichir de ce débat et de cette contradiction qui est inhérente en fait au travail scientifique. Hein, et c'est au rendez-vous de l'histoire, on pratique le débat au sens premier du terme, c'est-à-dire finalement la confrontation des points de vue et le débat produit parfois de l'enrichissement mutuel, des évolutions dans les façons de penser. Et c'est ce qu'on essaie de faire au rendez-vous de l'histoire.
Alors, vous êtes aussi professeur d'histoire. Est-ce que vous pensez que les enseignants d'histoire sont des vulgarisateurs ou des médiateurs scientifiques ?
Alors, il faudrait que je réfléchisse au sens du terme vulgarisateur. Le professeur d'histoire est plutôt un médiateur scientifique, puisque l'histoire qui est enseignée dans les écoles, c'est l'histoire universitaire. Et notre rôle, c'est de la transmettre. Je pense que le vulgarisateur ne s'adresse pas nécessairement à un public scolaire, il s'adresse à tout le monde, il essaie de parler au plus grand nombre. Le professeur d'histoire, lui, il est dans une perspective d'éducation, donc il a aussi une visée civique quand il enseigne l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire qu'on enseigne à l'école, elle a pour mission de construire le citoyen de demain. Et ça c'est une ambition, un objectif que le vulgarisateur n'a pas forcément.
Ça existe encore alors les hussards noirs de la République ?
Non, on ne s'habille plus en noir. Mais on enseigne les programmes qui ont été, qui ont force de loi, qui sont ceux que l'institution a fixé. Et effectivement, ces programmes, je pense qu'en fait, on essaie de faire des citoyens qui réfléchissent. Voilà, des citoyens qui sont capables de s'interroger, des citoyens qui sont capables d'avoir un regard critique. Notre objectif, c'est vraiment de faire des gens qui soient armés intellectuellement face à la désinformation, face au complotisme, face à tous ces maux de la connaissance qui traversent nos sociétés. Et je pense qu'aujourd'hui, la mission des gens qui s'engagent dans les métiers de l'enseignement, elle est aussi celle-ci.
Alors, puisque vous mentionnez justement les réseaux sociaux et toutes ces sources d'information et de désinformation, est-ce que parmi comment dire, les propositions de formation que vous faites aux enseignants qui viennent au rendez-vous de l'histoire, est-ce qu'il y a des contenus justement sur comment aborder les fake news, comment traiter les fake news, qu'est-ce qu'on dit à des élèves qui sont peut-être dans des théories du complot, qui considèrent, après tout, pourquoi tel épisode de l'histoire, ce ne serait pas une opinion, surtout s'il n'y a plus personne pour témoigner.
Oui, absolument. Ça, c'est une excellente question. C'est une des problématiques qui se posent aux enseignants et qui est très importante. Alors, pour vous donner un exemple, oui, bien sûr, au rendez-vous de l'histoire, on s'empare de ce sujet. Pour vous donner un exemple, on aura cette année l'enregistrement d'une émission de radio. Il y en a beaucoup d'émissions de radio qui sont enregistrées au rendez-vous de l'histoire parce que parmi nos partenaires, il y a France Culture, il y a France Inter. Et on aura une émission de radio de RFI qui s'appelle « Pourquoi RFI dit ça ?». Et c'est une émission de radio dans laquelle la journaliste Juliette Rangeval revient justement sur la manière dont RFI traite l'info. Et la particularité cette année, c'est que cette émission, elle sera enregistrée en présence d'enseignants et d'une enseignante détachée justement à l'éducation aux médias qui s'appelle Karen Prévost-Sorbe, qui est une enseignante référente pour notre académie. Et elle se prolongera, cette émission de radio, par un débat justement sur comment on enseigne aujourd'hui à des élèves qui sont exposés à des discours complotistes, qui sont exposés à la désinformation. Et par ailleurs, les élèves qui assisteront à cet enregistrement, eh bien, ils auront envoyé des questions à RFI sur la manière dont RFI traite l'info. Enfin, tout ça est un projet scolaire qui implique les élèves dans une réflexion justement sur la manière de traiter l'info. Et ça aura lieu au rendez-vous de l'histoire.
Alors, j'ai une dernière question pour vous. Donc, vous disiez que peut-être un des rôles de l'historien, c'est d'éclairer le présent à la lumière du passé. Alors, comment on fait face aussi parfois à la tentation, des journalistes, peut-être des politiques ou même des citoyens, de prendre les historiens, disons, pour des Madame Irma, leur dire, allez-y, est-ce qu'on peut miser sur vos recherches pour affirmer avec certitude que tel épisode historique va se reproduire ?
Oui, effectivement, on peut observer cette tentation. Je pense que l'historien, ce qui justement l'empêche peut-être de se risquer à des prédictions hasardeuses sur l'avenir, c'est la méthode qu'il suit, c'est la réflexion qu'il a sur sa discipline, c'est la réflexion qui va lui éviter un certain nombre de biais, c'est-à-dire par exemple le biais bien connu de la téléologie, cette idée que finalement les choses sont écrites à l'avance et qu'on se dirige inexorablement vers tel ou tel phénomène. On s'aperçoit que quand on étudie un sujet en profondeur, les choses ne sont pas écrites à l'avance. Les événements qui se sont produits sont le résultat de décisions prises par des individus, de conditions économiques, parfois même écologiques, qui régnaient à un moment donné. Je voudrais prendre juste un exemple de cela. On aura cette année au rendez-vous d'histoire un historien bien connu qui s'appelle Johann Chapoutot, qui est un spécialiste du nazisme. Et Johann Chapoutot a écrit un livre qui, d'ailleurs, sera récompensé cette année au rendez-vous de l'histoire par le prix Augustin Thierry, le prix de l'équipe des rendez-vous de l'histoire. Et ce livre s'appelle « Les irresponsables ». Et c'est un livre qui s'intéresse aux années qui précèdent l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. Et il se demande qui a amené Adolf Hitler au pouvoir. Et il va étudier de manière très très fine, presque jour par jour, mois par mois, les événements, les décisions politiques qui ont conduit à la prise de pouvoir par Hitler en Allemagne. J'ai lu ce livre, c'est absolument passionnant, parce qu'on s'aperçoit que, encore une fois, rien n'était écrit à l'avance. À tout moment, si les gens avaient agi différemment, si d'autres décisions avaient été prises, eh bien, l'histoire aurait pu prendre un chemin tout à fait différent de celui qu'elle a pris. Et évidemment, dans le cas de Hitler, ça aurait eu des effets considérables sur l'histoire mondiale. Donc, voilà, c'est justement en s'imposant une grande rigueur scientifique, que l'on peut eh bien, faire un bon usage de l'histoire et peut-être voilà, éviter de prendre, comme vous le disiez, les historiens pour des Madame Irma.
J'ai une dernière question que j'ai oublié de poser tout à l'heure. Après, je laisserai Elio dire le mot de la fin. Quel public est visé pour le festival ?
Encore une fois, c'est vraiment le public le plus large possible. Vient qui veut. C'est une manifestation gratuite. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les enfants. Il y en a pour les étudiants, pour les professeurs d'histoire et puis toutes les professions, toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire.
Merci beaucoup.
Alors, un petit mot pour la fin, peut-être. Est-ce que vous auriez un message que vous aimeriez adresser aux jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à s'intéresser à l'histoire ?
Eh bien, écoutez, voilà, comme on est sur Radio Campus, je voudrais m'adresser à tous les étudiants et pas uniquement aux étudiants en histoire, que vous soyez en droit, que vous soyez en économie, que vous soyez en sociologie, que vous soyez voilà, en littérature. Venez au rendez-vous d'histoire parce que il y en a vraiment pour tous les goûts. On va parler de tous ces thèmes-là. On a des conférences juridiques, on a des conférences économiques, on a des conférences évidemment littéraires, on a des conférences sociologiques. Tous les domaines de l'activité humaine, y compris des conférences scientifiques aussi. On va parler d'IA, on va parler de l'origine de la vie. On aura notamment le scientifique Christophe Galfard qui sera là. Donc voilà, quelles que soient les études que vous suivez, venez au rendez-vous d'histoire et vous apprendrez des choses.
Très bien, merci beaucoup pour votre participation. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur certains réseaux sociaux, sur un site internet peut-être ?
Alors, le site internet des Rendez-vous de l'Histoire et tous les réseaux du festival. On est présent sur Instagram, on est présent sur Facebook, on est présent sur LinkedIn, on est présent sur Blue Sky, voilà.
Très bien, merci beaucoup. N'oubliez pas que le podcast de l'émission est à retrouver sur radiocampustour.com. On se laisse sur une touche de musique. Et nous vous souhaitons une agréable soirée.
À vous aussi.
Alors, on va savoir, auditeur, auditrice, quelle est la musique ? Je crois que c'était le choix de l'invité.
Oui, bah, je peux
vous dire. Je vous laisse présenter.
Une chanson qui s'appelle Whistle et qui est chantée par Brisa Rocher.
Très bien, on se laisse là-dessus.
Cross.
On est ravis d'avoir réalisé cette première émission à vos côtés. Merci pour cet échange enrichissant.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux sorties et tout le reste de l'année.